temps. Seigneur, merci pour ton esprit, nous te l'avons dit, et c'était d'un cœur sincère. Et merci aussi parce que ta parole nous est donnée. Cette parole qui est justement inspirée par ton esprit, c'est ce que nous croyons. Tant d'hommes qui ont écrit, inspiré, conduit par ton esprit, afin que nous puissions recevoir cet héritage de ta pensée pour nous, pour notre foi, pour notre vie, pour notre avancement. Nous voulons te demander, Seigneur, que ton esprit, justement, puisse nous conduire, nous instruire, alors que nous allons encore une fois ouvrir ta parole, que nous puissions, Seigneur, être édifiés par tout ce qui nous sera partagé dans les Saintes Écritures, et que tu nous permettes aussi, Seigneur, que ce que nous allons entendre puisse rester en nous, pour que nous puissions, Seigneur, être bâtis spirituellement, pour être tes disciples. Et en effet, que ta vie puisse transparaître au travers de nous, et que ton esprit nous conduise réellement, Seigneur, à faire parler de ta gloire partout où nous sommes. Amen. Nous avons déjà lu le premier texte de ce matin, nous allons lire le deuxième, qui est toujours dans l'Évangile selon Jean. Cette fois-ci, c'est Jean 7, 37 à 39. Jean 7, 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria : Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Quand on parle du Saint-Esprit, il y a différentes réactions possibles, et que ce soit au milieu des chrétiens ou que ce soit au milieu des non-chrétiens. Vous savez bien que le Saint-Esprit, quand on en parle dans un contexte non-croyant, en général, c'est pour parler d'un truc complètement dingue, complètement fou, qui n'a aucun sens. Hein? Et donc, par exemple, si quelqu'un déplace quelque chose, et qu'à un moment donné, on demande qui a déplacé ça, on va ajouter, il a quand même pas été déplacé par la puissance du Saint-Esprit quand même. On parle souvent du Saint-Esprit comme étant quelque chose de complètement fou, de complètement dingue, de complètement hors du commun. Et il nous arrive aussi, nous comme chrétiens, de parler ou de vivre le Saint-Esprit comme quelque chose qui serait un peu d'un genre de rêve. D'une part, rêve dans le sens où on se dit « Oh là là, ce serait tellement bien, le Saint-Esprit, ce serait tellement extraordinaire. » On voit ça comme quelque chose de lointain, quelque chose d'inatteignable, quelque chose de compliqué. Et puis, il y a aussi des chrétiens qui sont ultra satisfaits de ce qu'ils ont vu et qui réduisent le Saint-Esprit à la routine qu'ils ont vue, qu'ils ont constatée de leurs habitudes spirituelles. Et ce qui est important, c'est que nous puissions vraiment réussir, et ça c'est un enjeu important de la vie du chrétien, c'est de réussir à remettre le Saint-Esprit à sa place, et sa place, c'est qu'il est en nous, et s'il est en nous, ça veut dire qu'il est au centre de notre vie. Le Saint-Esprit n'est pas une théorie éloignée pour nous, c'est pas un rêve, c'est pas quelque chose qui doit nous sembler... C'est notre quotidien. Le Saint-Esprit me parle de ma vie quotidienne. L'enseignement sur le Saint-Esprit me parle de ma vie de tous les jours. L'enseignement sur le Saint-Esprit me parle de la réalité à laquelle je fais face et dans laquelle je suis inscrit. Dès lors que nous croyons, le Saint-Esprit non seulement nous scelle, mais aussi il vient habiter en nous et il vient habiter en nous pour conduire nos vies. Dans les textes que nous avons lus aujourd'hui, ce qui est mis en évidence, c'est le fait que le Saint-Esprit vient habiter en nous comme une source jaillissante. Alors vous avez vu que Jésus dit à la femme samaritaine, il t'aurait donné une eau vive. Alors vous comprenez tous l'image de cette eau vive. L'eau vive, c'est pas une eau en gouttelettes, c'est pas un petit ruissellement, c'est une eau qui jaillit, comme une eau qui sort d'une source. Et c'est une eau qui va irriguer. Le Saint-Esprit est en nous une source d'eau qui nous irrigue spirituellement. Nous sommes irrigués de l'intérieur par le Saint-Esprit. Il y a une source qui nous habite tous et qui irrigue notre être intérieur, qui nous alimente de l'intérieur pour que nous puissions marcher avec Dieu, pour que nous puissions le connaître. Le Saint-Esprit a régénéré notre être, c'est vrai. Il a fait de nous des personnes nouvelles, c'est vrai. Mais il est aussi en nous au quotidien pour nous conduire. Et Jésus a promis des fleuves d'eau vive qui couleront de notre sein. Ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas du rêve. C'est ce dans quoi nous sommes inscrits. C'est notre vie d'être habité par cette source. La Bible nous parle au travers de cette image de la source jaillissante, de cette eau vive. La Bible nous parle d'une alimentation abondante, nourrissante, vivifiante, fortifiante, réconfortante, rafraîchissante du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en nous est une source vivante et éternelle, une source qui ne se terminera jamais. Notre esprit humain est irrigué en permanence par une eau vive, par le Saint-Esprit. Et Calvin parlait du Saint-Esprit comme une fontaine vivante qui coule continuellement chez les croyants. C'est beau, hein, ça ? Le Saint-Esprit est une fontaine vivante qui coule continuellement chez le croyant. C'est une fontaine, c'est sur une source d'eau courante. On pourrait parler d'un abondant ruisseau qui coule en nous en abondance. Vous voyez qu'on a parfois tendance à associer le Saint-Esprit à des choses extraordinaires, et c'est bien vrai. Mais parfois, en fait, ça relègue le Saint-Esprit dans le champ du rêve pour nous. Alors que tu es habité par cette source d'eau vivante, par cette fontaine. Et quand on parle de cette source d'eau vive, on parle non seulement de la présence du Saint-Esprit en nous, on parle de l'œuvre du Saint-Esprit en nous, son œuvre de transformation, son œuvre de prière, puisque le Saint-Esprit prie en nous, pour rappel, vous connaissez ce texte, il prie en nous. On parle des dons du Saint-Esprit en nous, le don de la sagesse, le don du discernement, le don de la force, le don de la joie, le don de la direction, le don du renouvellement, le don de la restauration. On parle des dons spirituels de l'Esprit en nous, le don d'encouragement, le don de libéralité, le don de prophétie, le don d'interprétation des langues. On parle des différents dons que le Saint-Esprit met en nous. Et on parle en fait finalement de toutes les provisions de Dieu en nous. En fait, Dieu a fait en nous une réserve de provisions qui ne finit jamais, dans laquelle nous sommes approvisionnés de l'intérieur par le Saint-Esprit. Il y a un canal qui coule en nous, une fontaine qui coule en nous et qui ne s'arrête jamais. Alors quand on lit ça, est-ce que ça ne vous perturbe pas un peu ? Non, vous n'êtes pas perturbé. Non, ça va. Il n'y a que moi alors. Il n'y a que moi. Donc je vais parler de moi. Et vous me jugerez pendant ce temps-là. Je vous donne le droit. De toute façon, vous le faites tout le temps, donc pas besoin de donner le droit. Est-ce que ma vie, au quotidien, j'ai l'impression d'avoir une source d'eau jaillissante en moi ? Est-ce que comme ça, dans le quotidien de ma vie, j'ai ce ressenti-là ? Quand je suis en train de travailler, quand je suis en train de téléphoner, quand je suis en train de marcher, quand je suis en train de m'adresser aux uns et aux autres, est-ce que j'ai l'impression de vivre ce que Jésus dit ? C'est à vous que Jésus le dit. Et cette eau deviendra en toi une eau jaillissante qui jaillira jusque dans l'éternité. C'est votre vie, ça. Ça semble tellement haut. Pourquoi est-ce que souvent, alors je ne dis pas que c'est le cas tout le temps, bien évidemment que nous sentons le Saint-Esprit vivre en nous, mais pourquoi est-ce que très souvent, nous avons l'impression de ne pas pleinement vivre ce que Jésus a dit ? Certainement parce que très souvent, nous empêchons l'écoulement de cette fontaine d'eau vive en nous. Nous empêchons que la fontaine du Saint-Esprit puisse couler. Nous empêchons, par différentes attitudes, par différents comportements, le Saint-Esprit de couler en nous. Et c'est le thème de la prédication d'aujourd'hui. Je suis responsable de la source d'eau vive qui est en moi. C'est à moi de l'entretenir. C'est à moi de m'occuper de cette source d'eau vive. C'est à moi de veiller à ce qu'elle puisse continuer à couler. C'est à moi de faire attention à ce que rien ne puisse l'empêcher de couler. Lorsque je fais le choix volontaire, intentionnel, de demeurer en présence de Dieu, alors je donne possibilité à la fontaine de continuer de couler. Mais lorsque je m'éloigne de Dieu, je laisse la fontaine tout doucement diminuer. Lorsque je fais une obsession dans ma tête de ne pas pécher contre Dieu, ça, c'est une obsession qu'on n'a plus beaucoup. Hein. Job, il avait cette obsession-là. On dit que c'était un homme qui fuyait le mal. Il fuyait le mal. Donc, ça veut dire qu'il voit le mal arriver et il le fuit. Vous imaginez quelqu'un qui court loin du mal ? Lorsque je fais une obsession dans ma vie de ne pas pécher contre Dieu, « Seigneur, je t'en supplie, oh, je ne veux pas de cette pensée-là. » Je ne veux pas de cette parole-là, je ne veux pas de cette attitude-là, je ne veux pas de ce comportement-là. Lorsque je fais une obsession de résister à la force du péché, je permets à la fontaine de couler. Lorsque je décide d'alimenter ma vie de prière, la vie de communion fraternelle, la participation aux ordonnances de Jésus. Lorsque je refuse la compromission, de tolérer que mes valeurs soient complètement infestées par les valeurs du monde. Lorsque je cherche à rester sensible au Seigneur, c'est-à-dire lorsqu'au quotidien, j'essaye de rester à l'écoute. C'est une fontaine jaillissante, le Saint-Esprit en nous, mais c'est une fontaine qu'il nous faut nous taire pour ressentir et pour écouter. Si je suis pris en permanence dans le tumulte et que je ne m'arrête jamais, je risque d'avoir l'impression que cette fontaine est éteinte. Mais si régulièrement je m'arrête, alors là je peux prendre conscience que le Saint-Esprit est bien en train de me parler, que le Saint-Esprit est bien en train de faire une œuvre en moi, il est bien en train de me réjouir, il est bien en train de me restaurer, il est bien en train de m'interpeller. Nous sommes responsables de cette fontaine qui est en nous. En fait, elle est jaillissante. Et vraiment, nous n'avons rien à faire de plus. Jésus a tout fait. Vous l'avez vu. Repentez-vous, soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, c'est un don que nous avons, que nous possédons. Mais nous sommes appelés tous à veiller à cette source, à ne pas non plus la salir, cette source, mais au contraire, à pouvoir en permanence y veiller. Le Saint-Esprit est aussi, et c'est ce que l'on voit dans le texte de la Pentecôte qu'on n'a pas lu, de nous des témoins. Mais si je ne suis pas à l'écoute, Eric nous disait qu'il a été poussé vers ce monsieur, si je ne suis pas à l'écoute pour pouvoir me dire « Ah, là le Seigneur me demande de parler » ou alors « Là le Seigneur me demande de me taire », eh bien je risque de rater les effets de cette source qui est en moi. Frères et sœurs, nous ne devons pas reléguer le Saint-Esprit à de la théorie dans nos vies. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un truc qui arrivera demain. C'est un peu le problème parfois quand on est dans cette optique du réveil. Vous connaissez le réveil. C'est-à-dire, oui, voilà, on attend le réveil. Ne soyez jamais comme ça. Ça ne va pas dans la vie chrétienne. On n'attend pas le réveil. Il est là. Tout ce qu'il faut est là. Le Saint-Esprit ne va pas venir demain, il est là. Mais qu'est-ce que je fais pour le laisser couler ? C'est ça la question. Qu'est-ce que l'Église fait pour le laisser couler ? Dans nos églises en général, pas forcément celle-ci, mais en général, mais en fait, Nous sommes vite contents. Nous avons prié 5 minutes, voilà. Nous avons prié une petite heure ensemble, voilà. Mais en réalité, il s'agit de nous. Au plus nous allons nous consacrer à Dieu, au plus nous allons pouvoir investir du temps dans la prière, dans l'écoute de Dieu, dans la recherche de sa volonté, dans la volonté de vivre selon sa parole, au plus nous allons nous rendre compte que cette source jaillissante, elle est bien là. Et c'est pas juste une question de tempérament, c'est pas juste que les yéyés vont la sortir et puis les plus calmes ne vont pas la sentir. Quel que soit notre tempérament, notre personnalité, notre habitude, notre âge, si nous faisons la démarche de nous approcher de Dieu et de veiller à cette source, nous allons nous rendre compte qu'elle est bien en train de jaillir en nous. Est-ce que vous avez déjà senti le bonheur après la prière? Quand vous avez prié, 1 quart d'heure, 20 minutes, le bonheur qu'on ressent, c'est un bonheur qui nous montre que cette source a bien jailli, qu'elle est bien en nous. Le bonheur de méditer les Écritures, où on sent que là, le Seigneur m'a interpellé là-dessus. Là, j'ai été instruit sur telle chose. On sent que la source jaillit. Le bonheur du service aussi. Quand on se sert les uns les autres, quand on exerce nos dons spirituels, on dit « Ah, je sens que la source est en moi ». En chacun de nous, cette source est présente et nous sommes responsables d'y veiller et de tout faire pour qu'elle puisse continuer à couler. Les Actes des Apôtres nous donnent quelque chose d'édifiant. On ne va pas lire tous les Actes des Apôtres, vous n'en faites pas, parce que vous voulez qu'on clôture. Moi, je peux rester jusque demain. Mais vous, vous êtes pressés. Vous avez plein de choses cet après-midi. Donc voilà, je vais devoir finir. Mais quand on lit les Actes des Apôtres, est-ce que ça doit nous garder? Parce que ça, c'est vraiment un problème dans la vie chrétienne et en théologie plus généralement. La question, c'est toujours, dans les Actes des Apôtres, qu'est-ce qu'on doit garder? Parce que quand on voit tout ce qui se passe, quand on voit tous les miracles, quand on doit... On comprend pas, ils faisaient des choses que nous... Par exemple, ils vivaient en communauté, par exemple. Vous savez ça. Ils partageaient tous leurs biens. Alors on se dit, quoi, on doit garder, on doit pas garder, ça c'est encore pour nous, c'est pas pour nous. En réalité, quand on lit les Actes des Apôtres, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un invariable que les Actes des Apôtres nous montrent, c'est l'atmosphère spirituelle dans laquelle les chrétiens étaient. C'est pas forcément le fait qu'ils vivaient en communauté ou pas, qu'ils se réunissaient dans les maisons ou pas dans les maisons, qu'ils se réunissaient. Ce qu'il faut garder dans les Actes des Apôtres, évidemment, tout est biblique, tout vient de Dieu, mais ce qu'il faut garder, c'est l'atmosphère spirituelle dans laquelle les chrétiens étaient. Les chrétiens des Actes des Apôtres étaient des chrétiens qui laissaient la source d'eau jaillir en eux. Ce n'étaient pas des chrétiens endormis, ce n'étaient pas des chrétiens aigris, ce n'étaient pas des chrétiens hésitants, peureux, c'était des chrétiens bouillants, pleins de force et de la puissance que donne le Saint-Esprit. Ainsi qu'il est écrit que Dieu nous a donné un esprit qui nous rend forts, qui nous rend sages, qui nous rend aimants. Ils vivaient cela. C'était des chrétiens qui laissaient la source couler. Ils étaient forts spirituellement, ils étaient bouillants spirituellement, ils étaient aimants, ils étaient sages. Ils étaient zélés, ils témoignaient de Jésus-Christ. Ils s'attachaient à l'enseignement de la parole. Ils se voyaient souvent, ils aimaient être ensemble. Ils priaient ensemble, ils partageaient leurs biens. Ils étaient pleins de foi, ces chrétiens. Et ils croyaient en la puissance de Dieu. Ils croyaient que des malades pouvaient être guéris. Ils croyaient que des personnes sous l'emprise des démons pouvaient être délivrées. Ils croyaient qu'ils pouvaient, avec leurs biens, faire avancer l'Évangile. Ils avaient à cœur d'obéir à Dieu. Ils avaient à cœur de grandir dans la foi. Et, ils étaient même heureux d'être persécutés. Tellement bouillants que la Bible nous dit qu'ils étaient, se sentaient privilégiés d'avoir été persécutés. Voilà ce que nous devons garder des Actes des Apôtres. Le Saint-Esprit qui agit, à la Pentecôte, il a jailli mais ensuite ils ont veillé à ce qu'ils puissent continuer à jaillir, à se répandre. Et ça ne commence pas entre nous tous, ça commence individuellement. Je suis responsable de la source que Dieu a mise en moi. Je suis responsable d'être ce temple propre dans lequel le Saint-Esprit peut habiter et dans lequel il peut jaillir. Amen.